Suivez Priorité Santé avec Suno Assurance qui a le bon profil pour vous accompagner à atteindre vos objectifs.
Priorité Santé, Céline Guillaume.
Bonjour et bienvenue dans Priorité Santé, invariablement inscrite sur la liste des tue-l'amour, la routine, faite d'habitudes qui s'installent, s'ancre et se répète, on lui prête le pouvoir de briser les couples les plus solides. La meilleure défense étant l'attaque, les tactiques pour l'anéantir ne manquent pas. S'extraire de la parentalité le temps d'un séjour, d'un week-end, surprendre son partenaire, prendre ensemble des bains moussants, romantiques, organiser des soirées massages, pourquoi pas, bref, bouger, innover et bousculer le quotidien. Certains opteront pour la stratégie entre guillemets, entendez-moi bien, du mal par le mal, et choisissent l'infidélité qui redonnera peut-être du souffle à leur vie conjugale devenue monotone. D'autres parents penseront à l'enfant d'y pansement, un heureux événement, à la rescousse des sentiments mis à l'épreuve. Mais la routine est-elle véritablement responsable de tous les maux qu'on lui prête? Comment la repérer, la déloger? Comment redonner de l'éclat à la vie amoureuse? Quand consulter et se faire aider? Et si la routine n'était pas qu'une ennemie mais aussi une alliée du couple? Beaucoup de questions auxquelles nous allons tâcher de répondre aujourd'hui. La routine au cœur du couple, c'est notre thème du jour. Vous l'avez bien compris, pour nous éclairer, tâcher de mieux la cerner, la comprendre, nous accueillons Dana Castro, psychologue clinicienne à Paris, auteure entre autres du livre Petit silence, petit mensonge, le jardin secret de l'enfant. Bonjour, bienvenue Dana Castro.
Bonjour.
Alors qu'est-ce qui est susceptible d'abîmer le couple encore plus que la routine?
L'indifférence.
L'indifférence.
L'indifférence, c'est-à-dire des gens se rencontrent, dans la rencontre il y a beaucoup d'espoir, beaucoup d'attentes, beaucoup de rêves. Et au début effectivement d'un couple, lorsqu'il se forme, tout ça existe.
Mais la routine ne peut-elle pas conduire justement à l'indifférence?
Ah. Je pense qu'elle peut conduire à l'indifférence.
Ce sera le sujet d'une prochaine émission. Pourquoi pas se joindront à nous dans cette discussion. Michel du Cameroun, dans son couple, la routine s'est installée au moment de sa première grossesse. Madeleine du Togo, pour qui l'emménagement, la vie à deux, a aussi fait le lit de la routine. Ou encore Abigail à Chypre, qui a pu trouver une façon de lutter contre la routine en tout misant sur les passions communes et bien d'autres témoignages et questions. Dana Castro, dans les différents messages là, que je viens d'aborder, la routine au moment de la première grossesse, de l'emménagement. Est-ce que ça vous interpelle? Ça dit des choses déjà?
Ça dit beaucoup de choses, c'est-à-dire que lorsque les enfants arrivent, le rythme change et les, entre guillemets, les devoirs des membres du couple changent aussi. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus tellement centrés sur le couple comme ils étaient auparavant. Ils sont beaucoup plus centrés sur les enfants qui, par la force des choses étant petits, ne peuvent pas se débrouiller
oui,
tout seuls.
Ils nécessitent du temps, de l'attention.
Ils nécessitent du temps et de l'attention. Donc il y a vraiment un déplacement entre la centration sur le couple, sur les besoins du couple, sur la relation et le détachement finalement de la relation à deux pour se centrer sur l'enfant. Et quand en plus il y a des dissensions quant à l'éducation des enfants, ça peut être encore
une accentuation.
Il peut y avoir
de ces difficultés. Alors la routine, comment elle s'installe?
Elle s'installe d'une manière très insidieuse. En fait, c'est pas quelque chose de brutal. Hier, j'étais heureux au sommet de l'excitation et demain, je reste sur le canapé à regarder dans le vide.
Elle avance masquée et silencieuse.
Elle avance masquée et silencieuse. Pour différentes raisons, déjà de changements dans la géométrie familiale. Après, des questions de fatigue, des questions de... Surtout aussi des questions de confort. Parce que finalement, la routine, je ne dis pas que c'est bien, mais un aspect, disons, qui est très positif, c'est qu'on ne se pose plus de questions. En fait, c'est une mauvaise habitude quand elle est négative.
Mais l'être humain a besoin aussi de ce sentiment de sécurité, de ce que vous appelez le confort.
Mais c'est en ce sens que c'est un confort. J'arrive, je fais des gestes, je m'installe sur le canapé, je regarde les émissions, je regarde ni à droite ni à gauche, je discute avec personne, c'est très confortable, je ne me pose même pas la question.
On se laisse envelopper par cette routine et ce confort.
Mais à un moment donné, elle devient trop lourde. Et je pense que le moment où elle devient trop lourde, c'est lorsqu'on s'aperçoit qu'en fait, un, c'est ennuyeux. c'est pas amusant du tout, c'est pesant, c'est lourd. Et deux, on vit avec des gens, on a l'impression qu'ils sont indifférents ou que nous sommes indifférents à eux.
Le premier bon conseil à suivre pour ne pas que la routine altère la relation ou vienne carrément à bout de la relation.
Le garder en tête, c'est-à-dire que cette mauvaise habitude est une réalité. Et donc garder en tête que ça peut exister. Et je dirais que le premier conseil, c'est vraiment communiquer.
On en revient au même endroit, mais il est bon de le rappeler. Eux aussi ont des idées, hommes, femmes, de tout âge et de toute génération. On les écoute, le micro-trottoir d'Adrien Desgiorgis.
Aller au resto, partir en week-end imprévu, quoi d'autre, faire des surprises. Oui, surprendre, je dirais, voilà, surprendre de n'importe quelle façon, au quotidien, de manière plus extraordinaire.
Je suis toujours d'accord avec elle, mais je suis moins sensible aux surprises. Si.
Aller voir ailleurs. Ces petits ballons d'oxygène.
Faire des trucs nouveaux et pimenter aussi son quotidien et aussi des petits trucs sexuels. Voilà. Vacances, des week-ends, des activités, aller faire du canoë, enfin, des trucs qu'on n'a pas l'habitude de faire.
Non, il n'y a pas de recette magique. Mais je pense qu'il faut refuser les habitudes. Voilà, sincèrement, j'y crois pas à ça. Il faut être ouvert, il ne faut pas avoir peur des expériences.
En faisant des choses nouvelles, en partant en week-end, des expos, théâtre, des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, de nouvelles choses.
Oui, l'humour, c'est un bon plan, je pense. Être un peu fou, je pense, un petit grain de folie, ça aide bien.
Sortir des choses qu'on aimerait et tenter des choses qu'on pourrait ne pas aimer, mais qu'on veut tenter, genre.
Faut pas se dire, ça te suffit de... Vas-y, on se fait le petit sushi le vendredi, et puis après, on rentre chez nous.
Bon, aller vers ailleurs, dans des endroits qu'on n'a jamais osé aller, parce que la routine fait qu'il faut rentrer, etc. Il faut chercher un peu plus loin. Comme je suis pas parisienne, je découvre Paris tous les ans, différemment, okay. Avec mon mari, dans des endroits chouettes, comme Montmartre, je fréquente plus du tout. Et parfois, on va passer un après-midi à redécouvrir des endroits sympas. Paris, il a plein de choses à faire. Parce que même si on vit dans une ville chouette, on fait toujours les mêmes choses. On va dans les mêmes endroits pour boire un verre, voir les mêmes amis. Et en même temps, il faut sortir des cadres dodo, métro dodo.
Je sais pas. On voyage, peut-être. Ça peut être une réponse.
Voyager.
Ouais.
Cuisiner ensemble. Regarder des films ensemble, faire des petits débats ensemble, je sais pas.
Ouais.
Fumer des joints ensemble.
Moi je dirais alterner entre, tu vois, sortir en couple et sortir en groupe de potes.
Ah oui.
Ça peut changer un peu.
Ouais.
C'est pas la même vibe.
Donc voir d'autres gens que ta meuf ou ton mec.
Ouais, oui. tu peux la ramener aussi au même temps, mais c'est juste quand il y a d'autres gens à côté, c'est pas la même vibe, ça change un peu.
La routine, elle existe, hein. Après quelques temps de mariage, ça s'installe, mais il faut innover soi-même. Pour éviter la routine, il faut innover, faire des voyages, des sorties, créer pour mettre un peu de frein dans la routine. Sinon, ça s'installe naturellement. C'est un choix pour maintenir le rythme. Si c'est pas ça, non, ça ne peut pas marcher.
Dana Castro, les idées ne manquent pas. Bon, toutes ne sont peut-être pas à suivre au pied de la lettre, si. Oh, il y en a une qui m'a un peu écorché les oreilles.
Non, bien sûr, mais finalement, ce que disent les gens, et ils ont tout à fait raison, c'est que pour sortir de la routine, ils ont besoin d'une excitation, qu'elle soit intellectuelle, qu'elle soit sociale ou qu'elle soit sexuelle et affective.
Oui, les activités communes.
Partager des intérêts.
Et on entend la dimension active aussi.
Exactement, la dimension active par la socialisation. Par être dans l'action, par la socialisation, par la découverte, par le partage. Socialiser, c'est aussi une action. Mais moi, je voudrais... Et puis, Je voudrais insister sur une chose. Pour pouvoir apprécier le partage, l'ouverture, l'excitation, etc., il est très important de se recentrer aussi sur soi.
Ne pas s'oublier dans cette démarche active.
Et attendre à ce que l'autre fasse tout. Quand on est bien, quand on prend soin de soi, parce que pour pouvoir faire tout ça, il faut être en mode d'ouverture. Si on est dans les prises de tête permanentes ou si on est accablé par toutes sortes d'idées, on peut aller dans l'endroit le plus magnifique du monde, on le verra. On ne saura pas l'apprécier. Je suis d'accord avec vous. Grosso modo, ce sont les thématiques. Après, qu'est-ce qu'on met dedans? Il y a des choses qui ne sont peut-être pas terribles. On est d'accord.
Alors, sur cette dimension active, je vous propose justement d'accueillir un premier auditeur. Il s'agit de Gustino Sainteux. Dans la vie, il est producteur d'émissions télé. Il travaille justement en ce moment même avec la Côte d'Ivoire sur un programme dont le sujet est le couple. Bonjour Gustino Sainteux.
Bonjour Céline.
Vous, la routine, elle vous est étrangère parce que vous êtes un hyperactif dans la lutte anti-routine. Est-ce que je peux traduire les choses de cette façon-là?
Oui, c'est ça.
On vous écoute. Qu'est-ce que vous faites au quotidien pour donner de l'éclat en permanence à votre vie conjugale?
Mais moi, je pense que la première chose que l'on doit faire, c'est... Et le docteur Castro me dira si je suis dans le bon pas, c'est d'être à l'écoute de son ou de sa partenaire. Parce qu'il est important que l'on puisse vibrer sur la même fréquence. Et pour vibrer sur la même fréquence, il faut être à l'écoute de son partenaire pour pouvoir connaître ses goûts, pour pouvoir connaître ses attentes, aussi ce que la personne n'aime pas, afin de pouvoir la surprendre.
Par exemple, je me permets de vous interrompre, par exemple, pour votre... Alors, ça fait 4 ans que vous êtes en couple chez votre compagne. Qu'est-ce que vous avez détecté, repéré très vite dans ce qu'elle apprécie, dans ce qu'elle aime? Vous parlez de fréquence. Qu'est-ce que vous avez mis en place dans ce sens-là?
Alors, moi, au quotidien, il y a l'humour. Il y a l'humour et puis il y a la... Il y a la surprise, il y a des petits mots que l'on laisse sur la salle de bain, ou que l'on écrit sur le miroir lorsqu'il y a de la vapeur. Laisser des petits cadeaux cachés parfois comme ça dans la maison, mais il ne faut pas spécialement grand-chose. On peut même partir à 30 minutes de chez soi, aller faire une promenade en campagne, ramasser une fleur ou emmener un bouquet alors qu'il n'y a pas d'occasion, une petite boîte de chocolat. Il n'y a pas besoin de faire de grandes dépenses, je pense.
Est-ce que vous avez une question précise, particulière à poser à Dana Castro?
Alors, moi, je voudrais savoir si la routine, c'est accepter de mourir à petit feu.
Wow. Accepter, je crois que personne ne peut l'accepter. Ça peut arriver malgré soi. Ou alors, vraiment, je dirais que si on l'accepte, c'est qu'on est dans des cas qui frisent un peu... on va dire la pathologie, mais en tout cas j'ai été très sensible à ce que vous avez dit, parce qu'au fond, être à l'écoute de l'autre, ça veut dire le valoriser. Donc on sort de l'indifférence et en voulant lui faire plaisir, le message qu'on lui renvoie et qui ne rentrera jamais dans la routine, c'est que tu es quelqu'un d'important pour moi. Je fais attention.
Particulière. Il est beau ce
unique.
Message.
Il est magnifique ce message et on ne peut pas s'ennuyer avec un message comme celui-là.
Juste pour illustrer ce que vous venez de dire, par exemple, Gustino, la dernière surprise, le dernier moment spécial que vous avez organisé pour votre conjointe, c'était ?
Alors, c'était un jeu de piste.
Ah, le jeu.
Moi j'aime beaucoup jouer. C'est l'emmener en vacances et la destination était faite par énigme. Donc chaque jour, elle ouvre une enveloppe, il y a toujours des indices.
Waouh.
Jusqu'à ce qu'elle finisse par savoir et encore où on va. Et encore. Voilà.
Dana Castro, il a tout compris. Vous avez des conseils à lui donner?
Non, je pense qu'il a, lui, beaucoup de conseils à donner. En tout cas, le message est très important. Être à l'écoute de l'autre, mais de soi également, parce qu'on ne peut pas se mettre... C'est-à-dire, la galère de l'un ne peut pas être le bonheur de l'autre. Et puis, garder en tête qu'un besoin fondamental de l'être humain, c'est d'être valorisé, de savoir qu'il est aimable, c'est-à-dire qu'il compte pour quelqu'un. Et tout ce que vous avez décrit paraît aller vraiment dans ce sens, où l'ennui est un mot qui n'existera plus.
Bravo. Oui, alors... Donc, Gustino, je vais juste libérer l'antenne pour pouvoir accueillir aussi d'autres auditeurs et auditrices. Mais vous êtes sur la bonne voie, donc tout va bien. À très bientôt.
Merci beaucoup.
Au revoir.
À
merci
bientôt.
Pour cette participation. On l'a dit, Dana Castro, parmi les moments critiques où la routine peut exploser au visage des couples, l'arrivée des enfants. Vous nous avez expliqué pourquoi, ce qui se joue à ce moment-là. Eh bien, c'est aussi l'histoire de Michel de Yaoundé que nous accueillons sur notre antenne. Bonjour et bienvenue, Michel.
Bonjour.
Vous avez vu, Michel, j'ai dû malmener un peu Agustino Saint-Eude pour pouvoir vous accueillir, mais j'imagine que vous avez pu noter, entendre quelques suggestions aussi dans ce qu'il a, dans ses préconisations.
Oui, j'ai bien écouté. mais c'est parfois difficile. Quand, tu es peut-être avec quelqu'un qui est tout le temps occupé et en mouvement tout le temps.
Quelle est votre histoire, Michel? Nous vous écoutons.
Alors, moi, je veux dire que la routine s'est installée après l'arrivée du deuxième enfant, parce que j'ai eu deux grossesses qui se suivaient. Donc, après le premier enfant, ça allait encore, mais dès que le deuxième enfant est venu, c'était un peu plus compliqué de sortir, de faire des petites escapades en dehors de la ville, de faire même des soirées entre potes ou entre couples. Donc, du coup, c'était juste la bonne maman à garder les enfants. Et puis, on est tout le temps dehors. Donc, parfois, même les soirées privées, bref, la routine s'est installée, quoi. Donc, du coup, c'est moi qui me prenais la tête à vouloir organiser quelques petites choses spéciales à chaque retour, peut-être, de voyage. Mais on se dit, ah, j'ai pas le temps, et puis ça ne sert à rien.
Dana Castro, je vous vois écouter attentivement le témoignage de Michel.
Oui, effectivement, l'arrivée d'un deuxième enfant augmente à la fois la charge mentale et la charge tout court du foyer. Et puis, vous décrivez comment finalement l'indifférence, en tout cas un éloignement s'est installé entre vous deux. Que faire si la communication est difficile ou n'est pas possible, ou si toute tentative de discussion est coupée court? C'est se centrer sur soi, pour soi-même se recharger et suivre sa vie, suivre sa route. Parce que un des risques de la routine, c'est de s'engluer, d'accord, avec le partenaire ou avec la partenaire et s'oublier soi-même. Donc si l'indifférence est là, si l'éloignement se fait, sur quoi on peut agir? Sur soi-même. Et donc il ne faut pas s'oublier.
Donc là, c'est le conseil que vous prodiguez à Michel?
En tout cas, oui. Vraiment.
Occupez-vous de vous.
Recentrez-vous sur vous-même, sur ce que vous aimez, sur ce qui vous fait plaisir, sur ce qui vous fait avancer dans la vie, sur ce qui vous fait vous sentir bien dans votre peau. Parce que toutes ces histoires de routine, d'indifférence, d'éloignement peuvent agir aussi sur le ressenti personnel, sur la façon dont on se voit.
La mésestime de soi.
Exactement, la mésestime de soi, etc. Donc, pour lutter contre tout ça, on est son meilleur ami, donc il faut se centrer sur soi.
Michel, les conseils de Dana Castro trouvent-ils écho dans ce que
oui,
vous...
Oui, oui, tout à fait.
Hein? Très bien.
Tout à fait. Du coup, après justement le troisième enfant, quelques années plus tard, c'est ce que j'ai décidé de faire. Et puis maintenant, c'est lui qui a un petit déclic dans sa tête, quoi, parce que
ben
j'ai
voilà.
décidé de reprendre ma vie en main, un peu comme le psy dit. J'ai décidé de mener mes propres activités.
C'est un sursaut nécessaire.
Laisser la nounou, oui, laisser la nounou gérer les enfants ou bien ma mère, et puis monter, descendre. Du coup, c'est lui qui commence aussi à rechercher un peu le rapprochement, quoi. Donc, du coup, il y a quand même un déclic.
Très bien. Bah, poursuivez. Dana Castro.
Oui, oui.
Merci
oui.
beaucoup.
Vous avez dit le mot-clé, reprendre sa vie en main.
Sa vie en main. Voilà. Oui. Et c'est ce que vous avez fait. Bravo, Michel. Oui. Merci. À bientôt. Merci d'être intervenu sur l'antenne d'RFI. Alors, c'est un vrai volet à part entière, routine et parentalité. Est-ce que la femme peut aussi se retrouver, s'éloigner de son conjoint parce qu'elle se retrouve épanouie, comblée par cette maternité? Et vous parliez de l'indifférence et délaissée son partenaire.
Oui, on observe de temps en temps dans certains couples où il y a une centrale. Je ne parle pas des premiers mois de vie de l'enfant, parce que là, c'est obligé.
Là, c'est chrono,
et tout le monde.
Bon. Ça vous dévore. Ces premiers mois-là vous dévorent.
Et puis, on est responsable d'une vie.
Voilà.
Bon. Mais oui, on observe de temps en temps des mères qui se centrent tellement sur les enfants deviennent le seul objet, le seul objectif, le seul centre d'intérêt et finalement la seule source de plaisir. Pour la femme, ce dévouement complet aux enfants, et parfois ça peut être au détriment du conjoint.
C'est aussi l'histoire de Ndoya que nous allons accueillir maintenant sur notre antenne. Bonjour Ndoya, vous êtes au Sénégal.
Oui, bonjour.
À Dakar, vous êtes la bienvenue sur notre antenne. Je vous écoute.
Merci à vous.
Et Dana Castro vous écoute.
Merci. En fait, je voulais juste faire un témoignage par rapport au rapport entre la routine dans son couple et la parentalité. Je pense que faut être bon. Moi, personnellement, de ma part, je me dis ce qui peut nous sauver à ce stade-là, c'est être un peu astucieux et surtout aussi inventif, je peux dire.
Vous avez dit être inventif
oui,
et
oui, astucieuse.
Ouais.
Bon, en fait, moi personnellement, mon mari et moi, on est pris par le travail. Mm-hmm. Donc, moi, je ne me suis pas rendu compte qu'à un moment, il y avait une installation vraiment de la routine dans notre couple. Donc, à un moment donné, bien vrai que je suis devenue maman, tout au début, je n'étais pas enchantée de sortir de chez moi. Puis, je me disais, le fait de changer des couches, d'amener des biberons, ça ne me donne pas ça me motive pas à sortir. Lui non plus, parce qu'il a une passion de l'élevage de ses enfants. Du coup, la solution que j'ai eu à trouver, c'est un peu marrant, mais je me dis que ça m'a beaucoup aidé. C'est que quand j'ai su que lui n'était pas enchanté de sortir parce qu'il me dit qu'il a ses moutons à gérer et tout ça, je me dis là, je suis là avec mon fils, j'ai de l'argent, j'ai du temps. Donc je me prépare, je prépare mon fils et je lui dis, bon, on y va, je m'en vais. Je lui demande la permission. Je l'ai fait une fois et la deuxième fois, il a su que bon, là, quand je sors avec mon fils, on passe de très bons moments. Ça lui a donné envie hein, de venir avec nous, de planifier les week-ends et tout ça.
La prise en main. L'action, ouais, la prise en main.
Deux éléments intéressants. Ouais. La notion de confort. Vous nous disiez qu'au début, finalement, vous n'aviez pas envie, c'était fatigant, etc. Et la deuxième chose, la reprise en main. Super.
On se rend compte que nos auditeurs, nos auditrices sont très attentifs en réalité à cette routine et même si elle peut dans un premier temps abîmer un petit peu la relation, ils réagissent. Il y a un sursaut qui se met en place.
Oui, parce que ça crée un ressenti négatif. Ça crée un ressenti pénible, ne serait-ce que l'ennui. C'est terrible d'arriver chez soi, s'ennuyer, les yeux, enfin je caricature un peu, les yeux dans le vide. Et combien de fois on n'entend pas quand même, j'ai pas envie de rentrer chez moi.
Eh oui, donc ce sursaut spontanément.
Donc
intervient.
Lorsque le ressenti est pénible, lorsqu'on prend conscience que c'est vraiment pénible, on peut pas juste dire ah c'est pénible, c'est comme ça. Il faut faire quelque chose.
Merci Ndoya, à très bientôt sur notre antenne dans un instant. Merci à vous. Dans un instant, nous serons avec Sémi. Qui nous posera cette question, et l'ego dans la routine, le lien entre l'ego et la routine, on en parle.
Enchanté, moi c'est Nicolas. Vas-y, viens, on boit un verre. Ou si tu veux, on le fait tout de suite. Vite, puis je te ramène après. Bouge pas, laisse-toi aller. Pour un soir, je serai ton hôte. Qu'est-ce qu'il y a ? T'hésites ou quoi ? Si c'est pas toi, ce sera une autre. Les plans cul, c'est mon quotidien. Mais difficile de me confier. C'était pas mal, mais on se quitte demain. Faudrait quelqu'un pour me conseiller. Le problème, c'est la routine. Quand les jours se ressemblent, ce qui me tue, c'est l'ennui. Est-ce qu'on finira ensemble ?
Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie d'un couple me fait souffrir de lassitude. Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie de couple me fait souffrir de lassitude.
Mon amour, ça fait 8 ans. C'est pas tous les jours évident. C'est pas par manque de sentiments. On s'aime toujours mais autrement. On dort dans le même lit, mais on s'éloigne petit à petit. L'impression d'être devenu transparent. Et si tu te trouvais un amant, un resto, un week-end. C'est trop fatigant. Si on reste ici tout le week-end, est-ce que tu me trouveras encore attirant? Le problème c'est la routine, quand les jours se ressemblent. Ce qui me tue c'est l'ennui, est-ce qu'on finira ensemble?
Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie de couple me fait souffrir de lassitude. Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie de couple me fait souffrir de lassitude. Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie de couple me fait souffrir de lassitude.
Lassitude.
Stromae, Solitude, sur RFI.
RFI.
La routine, on dit d'elle qu'elle brise les couples. Sémi, bonjour, bienvenue parmi nous. La routine brise-t-elle les couples, selon vous?
Elle y contribue.
Elle y contribue. Bienvenue, Dana Castro est avec nous.
Bonjour.
Très attentive au témoignage que vous allez faire. Juste quelques mots. Donc, vous êtes en France, vous avez eu une première histoire durant 12 ans avec un homme. Et effectivement, là, la routine a pu s'installer. Et puis, vous avez eu cette prise de conscience. Et dans cette nouvelle histoire que vous vivez aujourd'hui, vous essayez de vous en prémunir. On vous écoute.
C'est tout à fait ça. Bonjour déjà à tous ceux qui sont sur le plateau. Hein. Bonjour Anne Castro. En fait, oui, je suis restée 12 ans en couple, à peu près de l'âge de 22 ans jusqu'à une trentaine d'années. Et en fait, si vous voulez, déjà à l'âge de 20 ans, j'étais pas prête à, comment dire, aux différentes difficultés qu'on peut rencontrer en couple, donc j'étais pas armée. Et peu à peu, bah, on évolue ensemble, je finis mes études, et puis après, on s'installe ensemble. Et rapidement, on a un premier enfant, puis un deuxième. Et là, bah, la routine rentre un peu en jeu, surtout que moi, je suis une personne dynamique. Et je vois bien que je me laisse happer par cette routine et que bah, ça dérange moins qu'on ne sorte pas, ça dérange moins qu'on ne fasse pas des trucs ensemble, et puis on s'y accommode. Et jusqu'à, en fait... se regarder ben, comme des colocataires et plus comme un couple.
Il est dur, hein, ce mot, on l'entend parfois, hein, se regarder comme des colocataires. Dans cette nouvelle histoire que vous vivez, vous avez opté pour la communication, parce que vous ne vouliez pas retomber dans ces travers, entre guillemets.
Oui, exactement. C'est-à-dire que après, une fois qu'on a fait des erreurs, parce que je dis toujours qu'une séparation c'est du fait des deux personnes, donc une fois qu'on s'est regardé dans un miroir et qu'on sait qu'on a laissé des choses s'installer, et ben on est déjà plus armé. J'ai à peu près j'en ai dans mes 40 ans, donc je pars avec une expérience certaine, et donc je me dis tout de suite, quand je rencontre l'homme avec qui je suis aujourd'hui, ça, je ne le veux pas. Je sais ce que je ne veux pas. Et je vais mettre en place des mécanismes pour pallier à cette routine. C'est-à-dire que dès que je sens qu'on rentre dans une certaine habitude de vie et qu'on est happé par des emplois du temps compliqués, eh ben, j'essaie de casser cette routine.
Dana Castro.
Ben, merci pour ce témoignage. En fait, ce que vous nous dites, c'est que, encore une fois, il y a un ressenti pénible à la base, mais ce qui aide, c'est aussi de se connaître soi-même. Lorsque vous dites que vous savez ce que vous ne voulez plus, c'est aussi faire un petit tour en vous-même, vous recentrer sur vous et vous dire, voilà ce qui va m'aider à progresser dans ma vie psychologique, j'entends, et à me sentir bien. C'est super. Et puis, en disant que vous essayez de communiquer, et en fait, le mot « essayer » de trop. Il est important de communiquer absolument pour exprimer ce que l'on attend, ce que l'on aime, comme on l'a entendu d'ailleurs au début, parce que ça va inciter le partenaire aussi à dire ce qu'il aime, ce qu'il attend. Donc il va y avoir une adaptation entre les besoins des uns et des autres. Et puis vous introduisez, je pense, une notion qui me paraît essentielle, c'est que si on veut sortir de la routine, il faut un peu de discipline. C'est-à-dire, vous savez, les choses ne se font pas comme ça. Si on veut partir en week-end ou au restaurant ou aller au cinéma, il faut le programmer. d'une certaine façon, enfin, et s'astreindre à avoir ces moments de rencontre, de retrouvailles avec le couple dans l'emploi du temps. Donc, ça implique aussi une forme de discipline, mais on est dans l'action, comme on disait au début de l'émission.
Active. Sémi, on vous souhaite de continuer à avoir cette histoire, cette vie conjugale, cette histoire d'amour harmonieuse et épanouissante. Elle l'est aujourd'hui, on l'a bien compris.
Oui, oui, complètement. Bon. Et justement, pour revenir...
Pour finir, alors.
Pour finir, voilà, ce que disait Madame Castro. Aujourd'hui, si vous voulez, avant, je considérais que c'était aux hommes de m'emmener au restaurant, c'était aux hommes de m'offrir des cadeaux et tout. Et en fait, aujourd'hui, plus que d'attendre passivement, je dis à mon conjoint ce que j'ai envie. Donc, je lui dis tout de suite, écoute, là, il faut qu'on fasse quelque chose là. Plutôt que d'attendre que ça vienne, et puis des fois, les choses ne viennent pas.
Et puis, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire. Vous lui avez offert des fleurs. Alors oui. Qu'il est quadra, oui, oui. Ou quasi quadra, il vous a dit, eh bien, c'est la première fois au cours de ma vie qu'on m'offre des fleurs. Voilà.
Exactement.
Bravo.
Et j'étais très étonnée.
Bravo, Sémi.
On je peux rajouter Dana, quelque sûr, chose, parce que vous dites une chose qui me paraît vraiment très importante, c'est que... Parfois, lorsque vous disiez que vous attendiez à ce que ça soit l'homme qui fait, qui surprenne, etc., effectivement, ça peut être une idée fausse, c'est-à-dire qu'on ait une attente qui n'est pas du tout partagée par l'autre, qui peut être même un peu irréaliste par rapport à ce que l'autre peut donner. Et donc, on se trouve dans une position d'attente passive qui va augmenter la frustration et qui va augmenter le ressenti négatif. Donc, si on veut quelque chose...
On va le chercher.
On va le chercher.
Bravo, Sémi. À bientôt. Au revoir.
Castro,
oui.
Dites-moi, dans la routine, l'ego, allié ou ennemi? Et je finirai là.
L'ego.
Vous voulez dire...
La place de l'ego dans la routine.
Bah,
c'est un allié plutôt ou un ennemi?
On va dire que c'est un allié pour soi si on s'aime soi-même et on se veut du bien.
Voilà. Merci. Merci, Sémi. Dana Castro, la routine au sein du couple va-t-elle de pair avec la routine sexuelle?
Ça peut.
Mais c'est pas obligatoire.
C'est okay. Pas obligatoire parce que finalement, l'acte sexuel, c'est pas juste un acte mécanique, technique. C'est aussi une question de désir, de fantasme, d'imagination. Et donc, si l'autre ne représente plus un objet de désir, oui.
Je voudrais vous lire ce message arrivé via Facebook de Valentin, en lien avec... qui a des propositions anti-routine sexuelle, d'ailleurs. Déjouer la routine, c'est juste voyager, sortir plus au resto, ciné, varier de plaisir dans l'intimité, essayer de nouvelles positions, pourquoi pas, le faire aussi dans des lieux insolites, au champ, au bureau, sur le balcon, je demande à voir, à la rivière. Aussi, la recette miracle doit être une bonne dose de complicité. Sacré Valentin, il est à Yaoundé au Cameroun.
En fait, de quoi il nous parle, Valentin? Il nous parle d'entente. Il nous parle pas que de sexualité, c'est-à-dire de l'acte technique. Il nous parle aussi d'intimité, c'est-à-dire la complicité, c'est de l'intimité, et sans intimité, c'est quand même très compliqué. Et puis, il nous parle de nouveauté. Et il nous parle d'excitation, c'est-à-dire, quand je dis excitation, il s'agit plutôt de... Le mot qui convient plutôt, c'est celui de la stimulation, maintenir un intérêt et une curiosité.
Voilà. On poursuit avec ce message laissé par Madeleine au Togo.
Bonjour Priorité Santé, je suis Madeleine et j'appelle du Togo. Je suis avec un homme depuis 9 ans. On a emménagé ensemble, ça va faire un an environ. Depuis qu'on a emménagé ensemble, on est quasi dans la routine. Je suis avec un homme qui, de nature, est très calme, qui ne parle pas beaucoup. Niveau effort pour surprendre, c'est pas trop ça. Les efforts viennent... la majorité du temps de moi, ce qui fait qu'à la longue, c'est décourageant. Et là, j'ai plus envie de faire grand-chose. Du coup, j'ai l'impression qu'il subit la relation plutôt que de la vivre. Quand il y a quelque chose qui va pas, il le dit pas, il prend les choses comme ça vient. Du coup, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier à ça. Des idées à part sortir, faire la cuisine, les lingeries, parce que j'ai l'impression que tout ça ne va plus l'impressionner. Merci.
Madeleine, en quête de propositions, de solutions, on entend hein, dans sa voix ce qu'elle a dit, le découragement.
Oui, on entend le découragement qui est tout à fait compréhensible parce qu'elle a l'impression de se heurter à un mur, c'est-à-dire son aspect dynamique dans le fait qu'elle a essayé plein de choses pour sortir cet homme de l'indifférence, encore une fois, et elle a l'impression que ça n'a pas donné le résultat escompté. Mais je ne peux dire que ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire que dans ce cas, sur quoi peut-on agir ? Sur soi. Donc, se recentrer sur soi, on reprend le mot-clé, prendre les choses en main, prendre sa vie en main, et faire des efforts pour se surprendre soi-même, si on doit surprendre quelqu'un.
Parce qu'effectivement, là, elle s'est épuisée.
Elle s'est épuisée.
D'amener un éclat, de raviver l'éclat dans les yeux de son conjoint.
Et il est possible, qu'en s'épuisant dans cette volonté de le faire réagir, et sans aucune intention de sa part, il lui envoie un message négatif. Et que donc, lui, il va se braquer encore plus. Le message négatif étant « tu ne corresponds pas à ce que je veux ».
Donc elle déporte plutôt son attention sur elle, se recentre
se surprendre sur elle, j'ai envie de le dire.
Est-ce qu'on peut faire une distinction entre, disons, une routine saine et une routine négative ? Est-ce qu'il y a des vertus ou des bienfaits à la routine ? On a commencé à l'aborder tout à l'heure avec cet aspect bulle réconfortante, stabilisante. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ?
En fait, la routine positive ou saine, comme vous dites, c'est des moments, d'ailleurs vous l'avez utilisé, ce sont des rendez-vous qu'on se donne avec le conjoint. Même s'ils sont réguliers, même s'ils sont dans répétition, ils deviennent des petits rituels, c'est quand même très différent de la routine, deviennent de petits rituels de bien-être. Quelqu'un me racontait que tous les soirs, pour dire que c'est répétitif, eh bien, une fois que la maison est calme, que les enfants, enfin, que tout l'ébullition de la vie quotidienne s'est terminée, eh bien, il y avait un moment de douceur où ils mangeaient des chocolats, ils se racontaient leur vie, rigolaient, enfin, il y avait ce moment vraiment d'intimité. En fait, l'intimité, c'est très important, et de communication et de partage entre eux. Pour moi, c'est une routine positive. Parce que la routine, on ne peut pas vivre dans le chaos et dans la désorganisation totale.
En permanence, surtout.
C'est impossible. Donc, on va dire que c'est un cadre et tout dépend de ce qu'on va mettre dans ce cadre.
Et ces rituels, ils inscrivent le couple aussi dans sa singularité, dans son histoire propre, dans ces moments qui n'appartiennent qu'au couple.
Et ça l'enrichit.
Bon, très bien. Abigail est à Kyrenia, à Chypre, parmi nous. Bonjour, Abigail.
Bonjour.
Vous êtes une toute jeune femme de 18 ans et vous vivez une relation à distance.
Oui, c'est ça.
Voilà. Et vous avez réagi quand vous avez senti que la routine commençait un peu à enrayer à votre situation, l'épanouissement de votre couple. On vous écoute.
Oui, tel que vous venez de le dire, je suis en couple avec un jeune homme depuis 7 ans. Et ça fait 2 ans que nous ne vivons plus ensemble, c'est-à-dire dans la même ville pour des raisons d'études. Au début, tout allait bien, mais après, la routine s'était installée. On n'avait plus grand-chose à se dire. Parfois, on s'est raconté juste notre journée après ça. Au bout d'un moment, ça devenait trop ennuyant. Et à la fin du compte, j'attendais que lui aborde les sujets, qu'il les constate et il trouve que ça me met mal à l'aise, mais non, il n'y arrivait pas. Alors, on en a parlé, on en a discuté, on a trouvé que nous avons des mêmes passions et on s'est dit qu'on pouvait faire un point sur ça, c'est-à-dire chacun peut faire des trucs différents de ce qu'on faisait chaque jour ou autrefois. Et alors, à la fin, on se raconte ce qu'on a et c'est comme ça qu'on a pu vaincre la routine. Il y a, par exemple,
on aime tous de la lecture, alors on peut lire les mêmes livres et on discute sur les idées qu'on a trouvées intéressantes. Voilà.
Donc les passions communes à la rescousse, finalement, de votre histoire d'amour, et ça a fonctionné. Dana Castro. Oui.
Je pense qu'à la base, il y a la motivation des deux s'en sortir. Donc ça, c'est important.
On a vu qu'il a répondu, il était très réceptif Abigail lui a parlé.
Exactement. Donc c'est vraiment la volonté de faire en sorte pour que le couple se sente bien. Et puis, comme partout dans ce qu'on a entendu, c'est l'action. C'est-à-dire on communique en toute sincérité et on agit.
Dans ce qu'a dit Abigail, avec les liens qui se distendent, la communication qui s'enraye, est-ce que finalement c'est inhérent à la routine ou plus aux relations à distance? Parce que c'est à ce moment-là qu'ils ont rencontré des problèmes de fluidité dans leur communication et que la complicité était moins flagrante.
C'est-à-dire que les relations à distance impliquent peut-être... pas toujours, mais implique peut-être des univers très différents. C'est-à-dire qu'on ne vit plus le même quotidien. On ne vit plus les mêmes problématiques et peut-être qu'on ne rencontre plus les mêmes personnes. Donc il peut y avoir une distension, il peut y avoir un éloignement parce qu'à un moment donné, chacun est pris dans le tourbillon, comme dirait Edith Piaf, dans le tourbillon de sa vie et s'éloigne de ce que peut vivre l'autre. D'où l'importance de communiquer. En fait, on vit dans des bulles différentes et si on n'a pas la volonté vraiment de se rejoindre, parfois on est happé, oui, par la routine correspondant à ces bulles. Sa propre routine, son propre rythme, etc., et sa propre répétition, et on ne comprend plus ce que l'autre peut vivre.
Abigail, vous avez une question à ajouter?
Non, j'ai pas de questions.
Bon, ben merci beaucoup. Nous, on vous remercie parce que vous nous avez proposé, par contre, des solutions.
Absolument.
Merci beaucoup, merci. Abigail. Dana Castro, quand consulter, quand pousser la porte d'un professionnel et dire « là, ça ne va pas, j'ai besoin ». D'être aidé parce que la routine nous a envahis et voilà, et la communication est endommagée.
Je dirais que au moins dans deux situations, dans l'une qui découle du ressenti, quand on se rend compte que vraiment c'est très douloureux et qu'on est, en général, quand on se rend compte que c'est douloureux, que c'est lourd, que c'est pénible, on est un peu dans un ressassement et on ne trouve pas toujours des voies de, par exemple, se recentrer sur soi, ça devient très compliqué parce qu'on cherche des solutions peut-être pour le couple, peut-être pour l'autre qui de toute façon n'est pas le bon plan parce que l'autre doit trouver ses propres solutions. Donc vraiment, quand le ressenti devient très lourd, en général, ça prend un peu de temps parce qu'au début, on commence à banaliser, c'est la fatigue, ça va passer avec le temps. Mais quand justement ça ne passe pas et ça devient lourd, il faut consulter quelqu'un, sachant que ça ne va pas prendre 15 ans. Il suffit juste de...
Ça peut aller vite.
Ça peut aller vite.
Rapidement.
Mais remettre un peu le puzzle en place et comprendre comment fonctionne la personne et ce dont c'est important pour elle. Je dirais que le deuxième cas qui est intéressant pour consulter, c'est lorsque cette routine génère des conflits. C'est-à-dire qu'il y a un décalage dans les membres du couple qui arrivent à se disputer parce qu'ils ne peuvent pas répondre les uns aux attentes des autres.
Des autres. On va écouter un nouveau témoignage de Mariam qui est en Guinée.
Bonsoir, l'émission Priorité Santé. J'ai vécu vraiment dans un couple où il n'y avait pas du tout de communication, pas d'échange. Et le monsieur avec lequel je me suis mariée, au départ, tout allait bien parce qu'on a vécu ensemble d'abord avant de se marier, tout allait bien. Mais une fois que je fus mariée, les choses ont changé. C'est-à-dire, monsieur supposait que je devrais rester à la maison, même si je suis une femme active, je travaille et tout. On n'avait aucun moment de loisir, aucun moment de détente. Il préférait rester dehors avec ses amis. Même quand je lui demandais parfois qu'on sorte pour un peu changer d'air, histoire de se détendre. Il avait toujours des arguments. Et parfois, je prenais les enfants et je sortais avec eux. J'avoue que la routine dans un couple, ça tue le couple, ça tue l'amour. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Mon message vraiment de ce soir, c'est de demander au couple de souvent se divertir, de voyager s'ils n'ont pas de possibilité de voyager, de changer d'environnement par moment. Et ça va un peu égayer la vie du couple car ce n'est pas toujours facile. Merci.
Ben, on revient à ce qu'on disait au début. Elle reprend tout ce qui a été dit au début.
Ça résume bien. On entend cette indifférence, on entend ces moments critiques qui peuvent être des points de bascule pour au sein du couple, où la routine peut leur exploser au visage.
Et puis ça reprend aussi tout ce que les personnes ont dit au tout début de l'émission.
Mettre en mouvement, oui. Amener ce bol d'air frais. Ça s'est pas très bien terminé pour Mariam qui justement met en garde et conseille au couple changer d'air, d'espace, d'environnement, d'image, divertissez-vous. C'est important ça aussi.
C'est très important, mais je pense que ce qui est important aussi pour elle, c'est qu'elle s'est recentrée sur elle et qu'à un moment donné, elle s'occupe d'elle et de ses besoins.
Mais est-ce qu'on ne se retrouve pas dos au mur et à un moment donné... Et on n'a pas d'autre choix que d'avoir cette prise de conscience.
En tout cas, la prise de conscience est toujours salutaire parce que ça implique un changement de comportement et d'attente.
J'ai cette question à propos de la routine. Est-ce que la routine est le mal ou est-ce qu'elle ne serait pas dans certains cas le symptôme ? Est-ce que vous me comprenez ? Est-ce que parfois la routine ne s'installerait-elle pas parce que le couple va mal d'ores et déjà et qu'il délaisse et qu'il se désinvestit de cette histoire qu'ils ont créée.
Absolument, ça peut être tout à fait un symptôme d'un éloignement du couple, de la distension du couple, de l'indifférence ou de pratiquement de annonciateur peut-être de séparation ou de... En tout cas, même pas de mésentente, mais de désamour peut-être.
Je voudrais lire un message qui amène quand même de la positivité et de l'espoir. C'est Astrid à Kinshasa en RDC. Mon mari voyage beaucoup pour le travail et moi aussi, la distance nous aide beaucoup à innover. Quand on discute par vidéo, on est comme des nouveaux amoureux. Et quand on se retrouve, c'est la joie. Comme des gens qui démarrent une nouvelle vie, on pense à fonder une famille. On est en train de revoir nos emplois du temps et même d'envisager de laisser tomber nos boulots pour nous lancer dans un business commun afin d'avoir du temps pour nos enfants qui naîtront. C'est beau.
C'est magnifique.
On voit qu'on a là une équipe soudée où la complicité est au cœur de l'histoire. Ils se sont servis de la distance qui aurait pu être un obstacle comme un atout pour se réinventer et donner de l'éclat.
Et ils ont la volonté de réussir ensemble, ce qui me paraît très important.
Merci Dana Castro. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne à Paris, auteur du livre « Petit silence, petit mensonge, le jardin secret de l'enfant » aux éditions Albin Michel. Je vous invite à le lire. Merci à tous nos intervenants dans cette émission. Demain, place aux questions de femmes, la santé au féminin. Nous parlerons de la ménopause. Merci à l'équipe pour la préparation de l'émission du jour. À Cetou Samaki, Ophélie Lassen, Tiffany Menta. Merci à vous, auditrices et auditeurs. N'oubliez pas, prenez soin de vous.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance, qui a le bon profil pour vous accompagner à atteindre vos objectifs.